Chapitre 26. Vu et imprévu. De son air absent, Luna dit qu'elle ignorait quand paraîtrait dans le chicaneur l'interview de Harry par Rita. Son père attendait un long et passionnant article sur des témoignages récents de gens qui avaient vu des ronflax cornus.
« Bien entendu, c'est une nouvelle très importante. Harry devra donc attendre le numéro suivant, »
ajouta Luna. Pour Harry, il n'avait pas été facile de parler de la nuit du retour de Voldemort. Rita lui avait demandé avec insistance tous les plus petits détails. Et sachant que c'était pour lui l'occasion ou jamais de dire la vérité au monde, il lui avait raconté tout ce dont il se souvenait. Il se demandait comment allaient réagir les lecteurs. Beaucoup, sans doute, verraient dans cet article la confirmation qu'il était complètement fou. Ne serait-ce que parce qu'il allait être publié à côté de franches idioties concernant les ronflax cornus. Mais l'évasion de Bellatrix Lestrange et des autres mangemorts avait donné à Harry un désir ardent de faire quelque chose, même si cela ne devait aboutir à rien.
« Je suis impatient de savoir ce que va penser Ombrage quand elle verra que tu parles publiquement », commenta Dean, impressionné au dîner du lundi.
Assis de l'autre côté de Dean, Simus était occupé à engloutir de grandes quantités de tourte au poulet et au jambon, mais Harry savait qu'il écoutait.
« C'était ce qu'il fallait faire, Harry »,
dit Neville assis en face de lui. Le teint plutôt pâle, il poursuivit à voix basse.
« Ça devait être dur d'en parler, non ?»«
Oui, »
marmonna Harry. « Mais il faut que les gens sachent de quoi Voldemort est capable. »«
C'est vrai, »
approuva Neville avec un hochement de tête.
« Et aussi, c'est mange-mort. Il faudrait que les gens sachent. »
Neville laissa sa phrase en suspens et reporta son attention sur ses pommes de terre au four. Simus leva les yeux, mais dès qu'il croisa le regard de Harry, il se pencha à nouveau sur son assiette. Un peu plus tard, Dean, Simus et Neville remontèrent dans la salle commune, laissant Harry et Hermione attendre Ron qui n'avait pas encore dîné à cause de la séance d'entraînement de Quidditch. Cho Chang entra alors dans la grande salle en compagnie de son amie Marietta. Harry sentit son estomac se contracter, mais elle n'accorda pas un regard à la table des Griffons d'or et s'assit en prenant soin de lui tourner le dos.
Oh, j'oubliais de te demander,
dit Hermione d'une voix enjouée en jetant un coup d'œil à la table des Serres d'Aigle.
Comment ça s'est passé, ta sortie avec Cho? Comment se fait-il que tu sois arrivé si tôt aux trois balais?
Oh, c'était, dit Harry en se servant une deuxième part de tarte à la rhubarbe. Un fiasco total, maintenant que tu m'y fais penser. Il lui raconta la scène qui s'était déroulée dans le salon de thé de Madame Piedodu.
Et à ce moment-là,
acheva-t-il quelques minutes plus tard, tandis que disparaissait le dernier morceau de tarte,
elle se lève d'un bond et elle me dit « Un de ces jours, Harry !» Et puis elle s'en va, en courant.
Il posa sa cuillère et regarda Hermione.
« Je me demande ce qu'il lui a pris. Qu'est-ce que ça signifie ?»
Hermione jeta un coup d'œil à Cho et soupira.
« Oh, Harry !»
dit-elle.
« Je suis désolée, mais tu as manqué un peu de tact. »
« Moi ? Manquer de tact ? » s'indigna-t-il. « Tout allait très bien. » Et brusquement, elle me raconte que Roger Davis l'a invitée à sortir avec lui et qu'elle venait souvent dans ce stupide salon de thé pour s'embrasser avec Cédric. Comment je dois réagir à ça, moi ?
« Eh bien voilà !»
répondit Hermione du ton patient de quelqu'un qui aurait expliqué à un enfant en bas âge souffrant d'hyperémotivité que 1 plus 1 égale 2.
« Tu n'aurais pas dû lui dire que tu voulais me voir au beau milieu de la journée ?»«
Mais, balbutia Harry, c'est toi qui m'as demandé de te retrouver à midi et de venir avec elle. Il fallait bien que je lui dise, non ?»«
Tu aurais dû t'y prendre différemment, »
poursuivit Hermione, toujours avec cette même patience exaspérante.
« Tu aurais dû lui dire que c'était vraiment assommant, mais que je t'avais fait promettre de venir aux trois balais, que tu n'avais pas du tout envie d'y aller, que tu aurais préféré passer toute la journée seule avec elle, mais que malheureusement, il le fallait bien, et s'il te plaît, je voudrais tellement que tu viennes avec moi, comme ça ce serait plus vite fini. Tu aurais peut-être dû lui dire aussi que tu me trouvais très laide, »
ajouta-t-elle après un instant de réflexion.
« Mais je ne te trouve pas laide du tout, » répondit Harry déconcerté.
Hermione éclata de rire.
« Harry, tu es pire que Ron !»« Non, finalement non, » soupira-t-elle au moment où Ron, constellé debout et l'air grognon, entrait d'un pas lourd dans la grande salle. « Écoute, tu as mis Cho en colère quand tu lui as dit que tu avais rendez-vous avec moi. Alors elle a essayé de te rendre jaloux. Pour elle, c'était un moyen de savoir si tu l'aimais vraiment.
« Ah bon? C'était ça, le message ?» dit Harry. Ron se laissa tomber sur le banc face à eux et attrapa tous les plats qui se trouvaient à sa portée.
« Tu ne crois pas qu'il aurait été plus facile de me demander simplement si je l'aimais plus que toi ?»« Les filles ne posent pas souvent ce genre de questions, » fit remarquer Hermione.
« Eh bien, elles devraient, » répliqua Harry avec vigueur, « parce que dans ce cas, je lui aurais dit qu'elle me plaît beaucoup et elle n'aurait pas eu besoin de se mettre de nouveau dans tous ses états à propos de la mort de Cédric. »
« Je ne prétends pas que ce qu'elle a fait est raisonnable, » répondit Hermione.
Ginny arriva à son tour. Elle était aussi sale et paraissait d'aussi mauvaise humeur que Ron.
« J'essaie simplement de te faire comprendre ce qu'elle ressentait à ce moment-là. »«
Tu devrais écrire un livre, » dit Ron à Hermione en coupant ses pommes de terre. « Un truc qui donne la traduction des idioties que font les filles pour que les garçons puissent comprendre à quoi ça rime. »«
Ah oui !» approuva Harry avec ferveur.
Il jeta un coup d'œil à la table des Serres d'Aigle. Cho venait de se lever, et toujours sans un regard à Harry, elle quitta la grande salle. Passablement déprimé, il se tourna à nouveau vers Ron et Ginny.
« Alors, comment s'est passé l'entraînement de Quidditch ?»«
Un cauchemar !» répondit Ron d'une voix maussade.
« Allons donc !» dit Hermione en regardant Ginny. « Je suis sûr que ce n'était pas... »«
Oh si !»
coupa Ginny.
« C'était abominable. Angelina était au bord des larmes à la fin de la séance. »
Après le dîner, Ron et Ginny allèrent prendre un bain. Harry et Hermione retournèrent dans la salle commune de Gryffondor, toujours aussi animée, pour s'atteler à leurs habituelles piles de devoirs. Depuis une demi-heure, Harry était aux prises avec une nouvelle carte du ciel pour le cours d'astronomie lorsque Fred et George entrèrent dans la salle.
« Ron et Ginny ne sont pas là ?» demanda Fred, en prenant une chaise.
Harry répondit non d'un signe de tête.
« Tant mieux. On a assisté à leur séance d'entraînement. Ils vont se faire massacrer. Sans nous, ils ne valent rien. »«
N'exagère pas. Ginny se débrouille bien, » dit George en s'asseyant à côté de Fred.
« D'ailleurs, je me demande comment elle fait, alors qu'on ne l'a jamais laissée jouer avec nous. Depuis l'âge de 6 ans, elle force la porte de votre remise à balai dans le jardin et vole sur chacun de vos balais à tour de rôle quand vous n'êtes pas là. »
révéla Hermione derrière sa pile vacillante de livres consacrés aux anciennes runes.
« Oh !» dit George modérément impressionné. « Ça explique tout. »«
Est-ce que Ron a réussi à bloquer un tir ?»
demanda Hermione en leur jetant un regard par-dessus hiéroglyphes et logogrammes magiques.
« Il y arrive, hein, quand il est sûr que personne ne l'observe, » répondit Fred en levant les yeux au plafond.
« Samedi prochain, il suffira de demander à la foule de lui tourner le dos et de parler d'autre chose chaque fois que le soifle s'approchera de ses buts. » Il se leva, se dirigea vers la fenêtre d'un air fébrile et contempla le parc plongé dans l'obscurité. Le Quidditch était à peu près la seule chose pour laquelle il valait la peine de rester ici. Hermione lui lança un regard sévère.
« Tu as des examens à la fin de l'année ?»«
Je t'ai déjà dit qu'on n'était pas très passionnés par les aspics. » répliqua Fred. Les boîtes à flemme sont prêtes à la commercialisation. On a enfin trouvé le moyen de se débarrasser de ces furoncles. Ils disparaissent avec quelques gouttes d'essence de murlap. C'est Lee qui nous a donné l'idée. George bâilla longuement et contempla d'un air inconsolable le ciel nocturne chargé de nuages. Je me demande si je vais prendre la peine d'aller voir ce match. Si jamais Zacharia Smith nous bat, il ne me restera plus qu'à me tuer.
Ou plutôt à le tuer lui, dit Fred d'un ton décidé.
C'est ça l'ennui avec le Quidditch, remarqua distraitement Hermione qui s'était replongée dans sa traduction des anciennes runes. Ça crée des tensions et des sentiments hostiles entre les maisons.
Elle leva la tête pour prendre son exemplaire du syllabaire lune rousse et vit que Fred, George et Harry la regardaient tous les trois avec un mélange d'écœurement et d'incrédulité.
C'est vrai,
insista-t-elle agacée.
« Ce n'est quand même qu'un jeu, ne l'oublions pas. »«
Hermione, » répliqua Harry en hochant la tête, « tu t'y connais peut-être très bien en sentiments et en trucs comme ça, mais tu n'as jamais rien compris au Quidditch. »«
C'est possible, » dit-elle d'un air sombre en retournant à sa traduction, « mais au moins je ne fais pas dépendre mon bonheur de la capacité de Ron à défendre ses buts. »
Et bien que Harry eût préféré se jeter de la tour d'astronomie plutôt que de l'admettre devant elle, après avoir vu le match du samedi, il aurait volontiers donné n'importe quelle somme en galion pour ne plus être intéressé par le Quidditch. Ce qu'on pouvait dire de mieux à propos du match, c'était qu'il n'avait pas duré longtemps. les supporters de Gryffondor n'avaient eu à subir que 22 minutes de supplice. Il était difficile de déterminer ce qui avait été le pire. Le 14e but encaissé par Ron, le coup de batte que Slopper avait donné sur la bouche d'Angelina en ratant un cognard, ou la chute de Kirk qui était tombé en arrière de son balai en poussant un hurlement perçant lorsque Zacharias Smith avait foncé sur lui, le soifle à la main. Le miracle, c'était que Gryffondor n'avait perdu que 2 10 points. Ginny avait réussi à ravir le vif d'or sous le nez de Summerby, l'attrapeur de Poufsouffle, ce qui donnait un score final de 240 à 230.
« Joli coup !» dit Harry à Ginny lorsqu'ils se retrouvèrent dans la salle commune où l'atmosphère faisait penser à une veillée funèbre particulièrement lugubre.
« J'ai eu de la chance !» répondit-elle avec un haussement d'épaule. « Le vif d'or n'était pas très rapide et Summerby a un rhume. Il a éternué en fermant les yeux juste au mauvais moment. De toute façon, quand tu auras repris ta place dans l'équipe, « Ginny, je suis interdit à vie. »« Tu es interdit aussi longtemps qu'Ombrage restera à l'école, » rectifia-t-elle. « Ça fait une différence. »« Donc, quand tu auras repris ta place, je pense que j'essaierai de jouer au poste de poursuiveur. Angelina et Alicia quittent toutes les deux l'école l'année prochaine et moi, je préfère marquer des buts plutôt que d'attraper le vif d'or. »
Harry jeta un coup d'œil à Ron qui était recroquevillé dans un coin et contemplait ses genoux en serrant une bouteille de bière au beurre dans sa main.
« Angelina ne veut toujours pas accepter sa démission, »
dit Ginny comme si elle avait lu dans les pensées de Harry.
« Elle dit qu'elle est sûre qu'il finira par y arriver. »
Harry était reconnaissant à Angelina de la foi qu'elle avait en Ron, mais en même temps, il pensait qu'il serait plus charitable de le laisser quitter l'équipe.
Ron était à nouveau sorti du terrain au son de « Wesley est notre roi !» chanté en un chœur puissant et enthousiaste par les Serpentards qui étaient à présent donnés favoris pour remporter la coupe de Quidditch. Fred et George s'approchèrent d'eux.
« Je n'ai même plus le cœur à me payer de sa tête, » dit Fred en jetant un coup d'œil à la silhouette prostrée de Ron.
« Tu te rends compte ? Quand il a laissé entrer le 14e ?»
Il fit de grands moulinets désordonnés avec ses bras comme un chien pataugeant dans l'eau.
« Enfin bon, vaut mieux que je réserve ça pour les soirées entre amis. »
Peu après, Ron se traîna jusqu'au dortoir. Soucieux de ménager sa sensibilité, Harry attendit un certain temps avant de monter lui-même se coucher afin que Ron puisse faire semblant de dormir s'il le souhaitait. Et en effet, lorsque Harry entra à son tour dans le dortoir, les ronflements de Ron étaient un peu trop bruyants pour paraître vrais. Harry se coucha en repensant au match. Y assister depuis les tribunes lui avait paru terriblement frustrant. Il avait été impressionné par la performance de Ginny, mais il savait que si c'était lui qui avait joué, il aurait pu attraper le vif d'or bien avant. À un certain moment, il l'avait vu volter près de la cheville de Kirk. Si Ginny n'avait pas hésité, elle aurait pu arracher une victoire pour Gryffondor. Pendant le match, Ombrage était assise quelques rangs au-dessous de Harry et d'Hermione. À 2 reprises, elle avait tourné vers lui sa silhouette courtaude pour le regarder, sa large bouche de crapaud étirée en ce qui semblait un sourire goguenard. Ce souvenir le fit brûler de rage, tandis qu'il restait étendu dans le noir. Puis, quelques minutes plus tard, il se rappela qu'il était censé vider son esprit de toute émotion avant de s'endormir, comme Rogue ne cessait de lui répéter à la fin de chaque cours de Clumency. Il s'y efforça 1 ou 2 fois, mais la pensée de Rogue s'ajoutant au souvenir d'Ombrage ne fit qu'augmenter son ressentiment, et il s'aperçut qu'il se concentrait au contraire sur l'aversion que tous deux lui inspiraient. Peu à peu, les ronflements de Ron s'estompèrent, remplacés par la respiration lente et profonde du vrai sommeil. Il fallut davantage de temps à Harry pour s'endormir. Son corps était fatigué, mais son cerveau avait du mal à se mettre au repos. Il rêva que Neville et le professeur Shourave valsait autour de la salle sur demande pendant que le professeur McGonagall jouait de la cornemuse. Il le regardait pendant un bon moment avec un sentiment de joie, puis décidait d'aller chercher les autres membres de l'AD. Lorsqu'il sortait de la pièce, cependant, il se retrouvait non pas face à la tapisserie de Barnabas le Follet, mais devant une torche qui brûlait sur son support fixé au mur de pierre. Il tournait lentement la tête vers la gauche, et là, tout au bout d'un couloir sans fenêtre, il apercevait une porte noire et lisse. Il s'avançait alors dans cette direction avec une exaltation grandissante et la très étrange impression que, cette fois, il aurait enfin de la chance et trouverait le moyen de l'ouvrir. Arrivé à 1 ou 2 mètres, il distinguait dans un frisson d'excitation
une faible lumière bleue qui dessinait un ray vertical du côté droit.
La porte était entrouverte. Il tendait la main pour l'ouvrir et Ron émit un ronflement rauque et sonore, un vrai cette fois, et Harry se réveilla en sursaut, sa main droite tendue devant lui dans l'obscurité pour ouvrir une porte qui se trouvait à des centaines de kilomètres de là. Il laissa retomber son bras, avec un mélange de déception et de culpabilité. Il savait qu'il n'aurait pas dû voir la porte, mais il était en même temps si curieux de savoir ce qu'il y avait derrière qu'il ne put s'empêcher d'éprouver à l'égard de Ron une certaine irritation. Si seulement il avait pu attendre encore une minute avant de laisser échapper son ronflement.
Le lundi matin, ils descendirent prendre leur petit déjeuner au moment précis où les hiboux entraient dans la grande salle pour apporter le courrier. Hermione n'était pas la seule à attendre impatiemment sa gazette du sorcier. Presque tout le monde était avide de connaître les dernières nouvelles sur les mangemorts en fuite qui restaient introuvables en dépit de nombreux témoignages signalant leur présence ici ou là. Hermione donna une noise au hibou et déplia précipitamment le journal, tandis que Harry se versait un verre de jus d'orange.
Comme il n'avait reçu qu'une seule lettre depuis le début de l'année, il fut certain que le hibou qui venait d'atterrir devant lui avec un bruit sourd se trompait de destinataire.
« Qui cherches-tu ? » lui demanda-t-il.
D'un geste indolent, il écarta son verre de jus d'orange de sous le bec du hibou et se pencha en avant pour voir le nom écrit sur l'enveloppe. « Harry Potter, grande salle, école Poudlard. »
Les sourcils froncés, il tendit la main, mais avant qu'il ait eu le temps de prendre la lettre, 3, 4, 5 autres hiboux avaient atterri devant lui et se bousculaient, marchant dans le beurre, en versant la salière pour essayer d'être les premiers à distribuer le courrier.
« Mais qu'est-ce qui se passe ?»
demanda Ron, stupéfait. Les élèves assis à la table de Gryffondor se penchèrent pour voir ce qui se passait. 7 autres hiboux se posèrent alors parmi les autres, criant, ululant, battant des ailes.
Hermione plongea la main dans ce tourbillon de plumes et en retira un hibou moyen-duc qui portait dans son bec un long paquet cylindrique.
« Harry !» dit-elle d'une voix haletante. « Je crois savoir ce que ça signifie. Ouvre d'abord celui-ci. »
Harry déchira le papier d'emballage d'où s'échappa un exemplaire soigneusement roulé de l'édition de mars du Chicaneur. Il déroula le magazine et vit sur la couverture son propre visage lui sourire d'un air timide. En grosses lettres rouges, un titre annonçait sur toute la largeur de la photo.
« Harry Potter parle enfin !» La vérité sur celui dont on ne doit pas prononcer le nom est le récit de la nuit où je l'ai vu revenir.
« C'est bien, hein ?»
dit Luna, qui s'était approchée d'un pas traînant de la table des Gryffondors et s'asseyait à présent en se glissant entre Fred et Ron.
« Il est sorti hier. J'ai demandé à papa de t'en envoyer un exemplaire gratuit. Je pense que tout ça doit être du courrier de lecteur, »
ajouta-t-elle en montrant les hiboux qui se pressaient sur la table.
« C'est bien ce que je pensais, » dit Hermione avec avidité. « Harry, tu veux bien que... »«
Vas-y, » répondit Harry un peu déconcerté.
Ron et Hermione commencèrent tous deux à ouvrir des enveloppes.
« Felfi est envoyé par un type qui pense que t'as perdu la boule, » dit Ron en parcourant une lettre.
« Bah !»«
Là, il y a une femme qui te recommande de suivre une cure d'électrosort à Sainte-Mangouste, »
dit Hermione qui froissa la lettre, l'air déçu.
« Ah, celle-là m'a l'air mieux, » dit Harry avec lenteur. C'était une lettre d'une sorcière de Paisley.
« Hé ! Elle me croit !»
« Celui-ci est partagé, » dit Fred, qui participait avec enthousiasme à l'ouverture des lettres. « Il écrit que tu ne donnes pas l'impression d'être fou, mais comme il ne veut vraiment pas croire que tu sais qui est de retour, il ne sait plus que penser. Bref, beaucoup de parchemin pour ne rien dire. »«
Ah, en voilà un autre que tu as convaincu, Harry, »
s'exclama Hermione d'un ton surexcité. « Après avoir lu votre version de l'histoire, je suis bien obligé de conclure que la Gazette du Sorcier vous a traité très injustement.
Bien que je n'ai pas du tout envie de croire au retour de celui dont on ne doit pas prononcer le nom, je suis forcé de reconnaître que vous avez dit la vérité.
Oh, c'est merveilleux ! Encore un qui pense que tu racontes n'importe quoi !»
dit Ron en jetant par-dessus son épaule une lettre froissée.
« Mais celle-ci écrit que tu l'as convaincu et te considère maintenant comme un véritable héros. »
Elle a joint une photo.
« Waouh !
Que se passe-t-il ici ?»
dit alors une voix de petite fille faussement aimable. Harry leva la tête, les mains pleines d'enveloppes. Le professeur Ombrage se tenait derrière Fred et Luna, ses gros yeux de crapaud observant le fouillis de hibou et de lettres qui s'entassaient devant Harry.
Aux autres tables, de nombreux élèves les regardaient avec convoitise.
« Pourquoi avez-vous reçu toutes ces lettres, Monsieur Potter ?»
demanda-t-elle lentement. « C'est un crime maintenant de recevoir du courrier ?» demanda Fred d'une voix forte.
« Attention, Monsieur Wesley, sinon je serai obligé de vous donner une retenue !»
dit Ombrage.
« Alors, Monsieur Potter ?»
Harry hésita, mais il ne voyait pas comment il pourrait garder le secret sur ce qu'il avait fait. Ombrage ne tarderait pas à avoir un exemplaire du chicaneur entre les mains. « Des gens m'ont écrit parce que j'ai donné une interview, » expliqua Harry, « au sujet de ce qui s'est passé au mois de juin. » Instinctivement, Harry jeta un coup d'œil à la table des professeurs. Il avait la très étrange impression que Dumbledore l'avait observé un instant auparavant, mais, lorsqu'il le regarda, le directeur semblait absorbé dans une conversation avec le professeur Flitwick.
« Une interview ?»
répéta Ombrage, la voix plus aiguë et plus grêle que jamais.
« Que voulez-vous dire ?»
« Je veux dire qu'une journaliste m'a posé des questions et que j'y ai répondu, » dit Harry. « Voilà. » Et il lui jeta l'exemplaire du chicaneur. Elle l'attrapa au vol et regarda la couverture. Son visage terreux, blafard, prit alors une horrible teinte violacée.
« Quand avez-vous fait cela ?»
interrogea-t-elle d'une voix légèrement chevrotante. « Pendant la dernière sortie après Hollard, » répondit Harry. Elle lui lança un regard brûlant de rage. Le magazine trembla entre ses doigts boudinés.
Il n'y aura plus d'autre sortie après Hollard pour vous, Monsieur Potter,
murmura-t-elle.
Comment avez-vous osé? Comment avez-vous pu?
Elle prit une profonde inspiration.
J'ai pourtant essayé de vous apprendre à ne pas dire de mensonges, mais apparemment, le message n'a pas pénétré. 50 points de moins pour Gryffondor et une nouvelle semaine de retenue.
Elle s'éloigna en serrant le chicaneur contre sa poitrine, suivie des yeux par la plupart des élèves. Vers le milieu de la matinée, d'énormes écriteaux avaient été placardés partout dans l'école, pas seulement sur les tableaux d'affichage, mais également dans les couloirs et les salles de classe. Par ordre de la grande inquisitrice de Poudlard, tout élève surpris en possession du magazine Le Chicaneur sera renvoyé, conformément au décret d'éducation numéro 27, signé Dolores Jane Ombrage, grande inquisitrice. Pour une raison que Harry ne comprenait pas, chaque fois qu'Hermione passait devant l'un de ses écriteaux, elle rayonnait de plaisir. « Tu peux m'expliquer ce qui te rend si heureuse ?» lui demanda Harry.
« Tu ne comprends donc pas ?» murmura-t-elle. « La meilleure chose qu'elle pouvait faire pour que tout le monde lise ton interview, c'était de l'interdire ?»
Apparemment, Hermione avait raison. À la fin de la journée, bien que Harry n'ait vu nulle part la moindre trace du chicaneur, tous les élèves ne parlaient plus que de l'interview, citation à l'appui. Ils les entendaient en discuter à voix basse dans les files d'attente, avant le début des cours, dans la grande salle pendant le déjeuner et au fond des classes. Hermione raconta même que dans les toilettes des filles, toutes les occupantes des cabines étaient en train d'en parler lorsqu'elle y avait fait un tour avant son cours de runes anciennes.
« Quand elles m'ont vue, comme elles savent que je te connais, elles ont commencé à me bombarder de questions, »
lui dit Hermione, les yeux brillants.
« Et tu sais, Harry, j'ai l'impression qu'elles te croient. Je le pense vraiment, tu as fini par les convaincre. »
Pendant ce temps, le professeur Ombrage rôdait dans les couloirs, arrêtant les élèves au hasard pour exiger qu'ils retournent leurs poches et leurs sacs. Harry savait qu'elle cherchait des exemplaires du chicaneur, mais ses condisciples avaient pris de l'avance sur elle. Ils ensorcelaient les pages de l'interview, qui se transformaient en innocentes pages de manuel lorsque quiconque d'autre y posait les yeux ou devenait blanche dès qu'ils en interrompaient eux-mêmes la lecture. Bientôt, il sembla que tout le monde dans l'école avait lu l'article. Bien entendu, le décret d'éducation numéro 26 interdisait aux professeurs d'en parler, mais ils trouvaient quand même le moyen de faire savoir ce qu'ils en pensaient. Le professeur Chourave donna 20 points à Gryffondor lorsque Harry lui passa l'arrosoir. À la fin du cours de sortilège, le professeur Flitwick, radieux, lui mit dans la main une boîte de Queen souris en sucre en murmurant « Chut !» avant de s'éloigner précipitamment. Quant au professeur Trelawney, elle éclata en sanglots hystériques pendant le cours de divination
et annonça devant une classe stupéfaite et une ombrage désapprobatrice que finalement, Harry ne connaîtrait pas une mort précoce, mais vivrait au contraire jusqu'à un âge avancé, deviendrait ministre de la magie et aurait 12 enfants. Ce qui fit le plus grand plaisir à Harry, cependant, ce fut de voir Cho le rattraper le lendemain alors qu'il se dépêchait d'aller au cours de métamorphose. Avant qu'il ait compris ce qui se passait, elle avait mis sa main dans la sienne et murmurait à son oreille
« Je suis vraiment, vraiment désolée pour l'autre fois. C'est si courageux de ta part d'avoir donné cette interview. J'ai pleuré en la lisant. »
Il était navré de lui avoir fait verser quelques larmes supplémentaires, mais très heureux qu'elle accepte de lui parler à nouveau. Et sa joie fut encore plus intense lorsqu'elle l'embrassa rapidement sur la joue avant de repartir à pas précipités. Devant la salle de métamorphose, une surprise incroyable et tout aussi réjouissante l'attendait. Simus sortit en effet de la file d'attente et s'avança vers lui.
Je voulais simplement te dire, marmonna-t-il, le regard fixé sur les genoux de Harry, que je te crois maintenant, et j'ai envoyé le magazine à ma mère.
Enfin, la réaction de Malfoy, Crabbe et Goyle mit le comble à son bonheur. Il les vit cet après-midi-là, à la bibliothèque, tête contre tête, autour d'une table, en compagnie d'un garçon efflanqué du nom de Théodore Nott, d'après ce que lui souffla Hermione. Lorsque Harry alla chercher sur les étagères un livre consacré à la disparition partielle, ils se tournèrent vers lui et Goyle fit craquer ses jointures d'un air menaçant tandis que Malfoy murmurait à l'oreille de Crabbe quelque chose qui ne pouvait être que très malveillant à son égard. Harry connaissait parfaitement les raisons de leur attitude. Il avait cité leur père comme étant des mange-morts.
« Et le plus drôle, » chuchota Hermione d'un air joyeux quand ils eurent quitté la bibliothèque, « c'est qu'ils ne peuvent pas te contredire, sinon ce serait admettre qu'ils ont lu l'article. »
Pour couronner le tout, Luna lui annonça au dîner que jamais on n'avait vu un numéro du chicaneur aussi vite épuisé.
« Papa va réimprimer, »
dit-elle à Harry, les yeux exorbités d'enthousiasme.
« Il n'arrive pas à y croire. Il dit que les gens s'intéressent encore plus à ça qu'au ronflax cornu. »
Ce soir-là, Harry fut accueilli en héros dans la salle commune de Gryffondor. Provocateurs, Fred et George avaient jeté un charme d'agrandissement sur la couverture du chicaneur et l'avaient accroché au mur. La tête géante de Harry contemplait l'agitation ambiante en lançant de temps à autre, d'une voix tonitruante, des phrases du genre « Le ministère est un tas de crétins !» ou « Ombrage et bête à manger de la bouse !» Hermione ne trouvait pas la plaisanterie très amusante et prétendait que sa concentration en était perturbée. Exaspérée, elle finit par monter se coucher beaucoup plus tôt que d'habitude. Harry dut lui-même l'admettre, l'affiche était devenue moins drôle au bout d'une heure ou deux, surtout lorsque les effets du sortilège de parole commencèrent à s'estomper et que la photo ne criait plus que quelques mots isolés comme « bouse » ou « ombrage » à des intervalles de plus en plus rapprochés et d'une voix chaque fois plus aiguë. En fait, il commençait à avoir mal à la tête, et sa cicatrice le picotait à nouveau désagréablement. Sous les grognements déçus des Gryffondors, qui s'étaient assis autour de lui et lui demandaient de leur répéter en direct pour la énième fois le contenu de son interview, il annonça qu'il avait besoin d'une bonne nuit de sommeil. Le dortoir était désert quand il y entra. Il appuya son front contre la fraîcheur du carreau de la fenêtre, à côté de son lit, et sentit sa douleur s'apaiser. Puis il se déshabilla et se coucha en espérant que son mal de tête disparaîtrait. Il se sentait également un peu barbouillé. Se tournant sur le côté, il ferma les yeux et s'endormit presque aussitôt. Il était debout, dans une pièce sombre, aux rideaux tirés, éclairée par un unique chandelier. Ses mains serraient le dossier d'un fauteuil devant lui. Ses doigts, longs et pâles, comme s'il n'avait pas connu la lumière du soleil depuis des années, ressemblait à de grandes araignées blanchâtres contre le velours noir du fauteuil. De l'autre côté, dans le cercle de lumière que projetaient les chandelles, un homme vêtu d'une robe de sorcier noir était à genoux.
« Il semble que l'on m'ait mal conseillé, »
disait Harry d'une voix aiguë, froide, palpitante de colère.
« Maître, j'implore votre pardon. »
répondait d'un ton rauque l'homme agenouillé. Sa nuque brillait à la lueur des chandelles, et il était parcouru de tremblements.
« Je ne te blâme pas, Rookwood !»
disait Harry de cette même voix cruelle et glacée. Il lâchait le dossier du fauteuil et le contournait pour s'approcher de l'homme prosterné sur le sol. Il se tenait devant lui à présent, dans l'obscurité, et regardait les choses de beaucoup plus haut qu'à l'ordinaire.
« Tu es sûr de ce que tu affirmes, Rockwood ?»
demandait Harry.
« Oui, seigneur, oui. Je travaille à être au département des mystères. »
Avery m'a dit que Morose arriverait à l'en sortir.
Morose n'y serait jamais parvenu, maître. Il savait qu'il ne pouvait pas. C'est certainement pour cela qu'il a tant combattu le sortilège de l'Imperium auquel l'avait soumis Malfoy.
« Lève-toi, Rockwood !»
murmurait Harry. Dans sa hâte d'obéir, l'homme agenouillé manquait de tomber. Il avait le visage grêlé et la lueur des chandelles mettait en relief les marques de sa peau. Après s'être relevé, il demeurait un peu voûté, comme s'il s'inclinait à demi, et jetait à Harry des regards terrifiés.
« Tu as bien fait de me dire cela !»
poursuivit Harry.
« Bon, il semble donc que j'ai perdu des mois en vaine manœuvre. Mais peu importe !» Nous allons recommencer dès maintenant. Tu as la gratitude de Lord Voldemort, Rockwood.
Seigneur, oh oui, seigneur,
balbutia Rockwood, la voix rauque de soulagement.
J'aurai besoin de ton aide. Je veux que tu me donnes toutes les informations que tu pourras recueillir.
Bien sûr, Seigneur. Bien sûr, tout ce que vous voudrez.
Très bien. Tu peux t'en aller maintenant. Envoie-moi Avery.
En s'inclinant, Rockwood reculait d'un pas précipité et disparaissait derrière une porte. Resté seul dans la pièce obscure, Harry se tournait vers le mur. Un miroir craquelé, piqueté par le temps, était accroché au mur. Dans la pénombre, Harry s'en approchait. Peu à peu, son reflet grandissait, devenait plus distinct. Un visage plus blanc qu'une tête de mort, des yeux rouges, avec deux fentes en guise de pupilles.
« Non !»«
Qu'est-ce qu'il y a ?» s'écria une voix proche. Harry se débattit comme un fou, s'empêtra dans les rideaux de son baldaquin et tomba du lit. Pendant quelques secondes, il ne sut plus où il était. Il s'attendait à voir le visage blanchâtre en forme de tête de mort se dessiner à nouveau dans l'obscurité. Mais soudain, la voix de Ron s'éleva tout près de lui. « Est-ce que tu vas cesser de t'agiter comme un démon que je puisse te dégager de là ?» Ron écarta les rideaux d'un coup sec, et Harry, étendu par terre, sur le dos, sa cicatrice brûlante de douleur le regarda à la lueur du clair de lune. Ron semblait sur le point de se coucher. Il avait déjà enlevé une des manches de sa robe de sorcier. « Quelqu'un s'est encore fait attaquer ?» demanda-t-il en relevant Harry sans ménagement. « C'est mon père? Toujours ce serpent ?»«
Non.
Tout le monde va bien. » halta Harry, qui avait l'impression d'avoir le front en feu. « Sauf Avery. Il a des ennuis. Il lui a donné de faux renseignements. Voldemort est très en colère. » Il poussa un grognement et se laissa tomber sur le lit en massant sa cicatrice. « Mais Rockwood va s'en occuper maintenant. Il est à nouveau sur la bonne piste. »«
De quoi tu parles ?»
demanda Ron effrayé.
Tu veux dire que tu viens de voir tu sais qui?
J'étais tu sais qui,
répondit Harry. Il tendit les mains devant lui dans la pénombre et les approcha de son visage pour s'assurer qu'elle n'avait plus ses longs doigts d'une pâleur de mort.
Il était avec Rockwood, l'un des mange-morts évadés d'Azkaban, tu te souviens? Rockwood vient de lui dire que Morose n'y serait jamais parvenu. Parvenu à quoi? À sortir quelque chose. Il a dit que Morose savait qu'il n'y arriverait pas. Morose était soumis au sortilège de l'Impérium. Il a dit que c'était Malfoy qui le lui avait jeté, je crois.
Morose a été ensorcelé pour sortir quelque chose,
dit Ron.
Mais alors ça doit être l'arme,
acheva Harry. Je sais.
La porte du dortoir s'ouvrit. Dean et Simus entrèrent et Harry se hâta de glisser les jambes sous ses couvertures. Il ne voulait pas donner l'impression qu'il s'était passé quelque chose d'étrange au moment où Simus cessait tout juste de le prendre pour un cinglé. Ron se rapprocha de Harry en faisant semblant de prendre la cruche d'eau posée sur sa table de chevet.
« Tu veux dire, murmura-t-il, que tu étais tu sais qui ?»« Oui,
répondit Harry à voix basse. Ron but inutilement une trop longue gorgée. Harry vit l'eau ruisseler sur son menton et sa poitrine.
« Harry,
reprit-il, tandis que Dean et Simus s'affairaient bruyamment, enlevant leurs robes et bavardant.
« Il faut que tu le dises. Il ne faut le dire à personne !»
l'interrompit sèchement Harry.
« Je n'aurais rien vu du tout si j'avais pratiqué l'occlumencie. Je suis censé avoir appris à me protéger contre ce genre de choses. C'est ce qu'ils veulent !»
Par « il », Harry entendait Dumbledore. Il se réinstalla dans son lit et tourna le dos à Ron. Quelques instants plus tard, il entendit le matelas de Ron grincer tandis qu'il se couchait à son tour. La cicatrice de Harry recommença à le brûler. Il mordit son oreiller pour étouffer une plainte de douleur. Quelque part, il le savait, Avery était en train de subir son châtiment. Harry et Ron, qui voulaient être sûrs que personne ne surprendrait leur conversation, attendirent la récréation du lendemain matin pour raconter à Hermione ce qui s'était passé. Debout dans leur coin habituel de la cour balayé par le vent froid, Harry lui relata son rêve dans tous les détails. Lorsqu'il eut terminé, Hermione resta silencieuse un bon moment à regarder avec une sorte d'intensité douloureuse Fred et George, tous deux sans tête, qui vendaient à l'autre bout de la cour leur chapeau magique caché sous leur cape.
« Alors c'est pour ça qu'ils l'ont tué ?»
dit-elle enfin en détachant les yeux de Fred et George.
« Quand Moreau a essayé de voler cette arme, quelque chose d'étrange lui est arrivé. Je pense qu'elle doit être protégée par des sortilèges de défense pour empêcher les gens d'y toucher. C'est pour ça qu'il a fini à Sainte-Mangouste. Son cerveau a complètement déraillé et il ne pouvait plus parler. Mais vous vous souvenez de ce que nous a dit la guérisseuse? Il allait mieux et il ne pouvait pas prendre le risque qu'il guérisse, bien sûr. Le choc qu'il a subi quand il a touché l'arme a probablement annihilé les effets de l'Impérium. En retrouvant l'usage de la parole, il aurait expliqué ce qu'il avait fait. On aurait su alors que quelqu'un l'avait envoyé voler l'arme. Bien sûr, il était facile à Lucius Malfoy de lui jeter le sortilège. Il est toujours fourré au ministère, non?
Il y traînait même le jour où je suis passé au tribunal,
dit Harry.
Dans le...
Mais attendez,
dit-il lentement.
Il se trouvait dans le couloir du département des mystères ce jour-là.
Ton père a dit qu'il était sans doute descendu voir ce qui s'était passé pendant mon audience. Mais s'il...
« Sturgis !»
dit alors Hermione dans un souffle.
On aurait dit qu'elle venait d'être frappée par la foudre.
« Pardon ?»
s'étonna Ron.
« Sturgis, Pottermore !»
reprit Hermione, la respiration haletante.
« Arrêtez, pour avoir essayé de forcer une porte. Lucius Malfoy a dû l'y obliger, lui aussi. Je parie qu'il l'a fait le jour même où tu l'as vu là-bas, Harry. Sturgis avait remporté la cape d'invisibilité de Maugrey. Vous vous souvenez ?» Imaginons qu'il ait monté une garde invisible devant la porte et que Malfoy l'ait entendu bouger ou ait deviné sa présence, ou même qu'il ait jeté le sortilège de l'Impérium à tout hasard, en pensant qu'il y avait peut-être quelqu'un en faction. À la première occasion, sans doute au moment où c'était à nouveau son tour de monter la garde, Sturgis, sous l'emprise du maléfice, a essayé de pénétrer dans le département des mystères et d'y voler l'arme pour Voldemort. Ron, tais-toi. Mais il s'est fait prendre et on l'a envoyé à Azkaban.
Elle regarda Harry.
Et maintenant, c'est Rockwood qui a indiqué à Voldemort comment voler l'arme?
Je n'ai pas entendu toute la conversation, mais c'est ce qui semblait en ressortir,
répondit Harry.
Rockwood travaillait là avant. Peut-être que Voldemort l'a envoyé le faire lui-même.
Hermione acquiesça d'un signe de tête, toujours perdue dans ses pensées, puis tout à coup elle lança.
« Mais en fait, tu n'aurais pas dû voir ça, Harry.
Quoi » « Quoi ? » s'exclama-t-il interloqué.
« Tu es censé apprendre comment fermer ton esprit à ce genre de choses, »
dit Hermione soudain sévère.
« Je sais, » répondit Harry. « Mais... je crois que nous devrions essayer d'oublier ce que tu as vu, »
déclara-t-elle d'un ton ferme.
« Et il faudrait que tu fasses un peu plus d'efforts dans tes cours de clumancie à partir de maintenant. »
Il n'y eut aucune amélioration à mesure que la semaine progressait. Harry obtint deux nouveaux dés en potion. Il était toujours sur des charbons ardents, en attendant de savoir si Hagrid serait renvoyé ou pas, et il ne pouvait s'empêcher de ruminer le rêve dans lequel il avait été Voldemort, bien qu'il n'en ait plus parlé avec Ron et Hermione, de peur que celle-ci ne le rappelle une nouvelle fois à l'ordre. En revanche, il aurait bien aimé pouvoir en parler à Sirius, mais comme il n'en était pas question, il s'efforçait de rejeter tout ça dans un coin de sa tête. Malheureusement, aucun coin de sa tête n'était plus à l'abri.
« Levez-vous, Potter !»
Une quinzaine de jours après avoir rêvé de Rockwood, Harry, une fois de plus, se retrouvait à genoux sur le sol du bureau de Rogue, essayant de reprendre ses esprits. Rogue l'avait à nouveau forcé à revivre une série de très anciens souvenirs, qu'il ne pensait pas avoir conservés dans sa mémoire. La plupart concernaient des humiliations que Dudley et sa bande lui avaient infligées à l'école primaire.
« Ce dernier souvenir, » dit Rogue, « qu'est-ce que c'était ?»«
Je ne sais pas, » répondit Harry en se relevant d'un air las. Il avait de plus en plus de mal à séparer les différents souvenirs enchevêtrés dans le flot d'images et de sons que Rogue ne cessait de susciter. « Vous voulez dire celui où mon cousin essayait de me faire tenir debout dans la cuvette des toilettes ?»«
Non, » dit Rogue à mi-voix. « Celui où un homme était à genoux au milieu d'une pièce sombre. »«
Oh, ce n'est rien, » assura Harry. Le regard noir de Rogue vrilla celui de Harry. Se souvenant de ce que Rogue lui avait dit sur l'importance cruciale du contact visuel dans l'exercice de la légilimensie, Harry cligna des yeux et regarda ailleurs.
« Comment cet homme et cette pièce se sont-ils retrouvés dans votre tête, Potter ?»
interrogea Rogue. « C'est... » répondit Harry en regardant un peu partout, sauf en direction de Rogue. « C'est un rêve que j'ai fait. »«
Un rêve, hein ?»
répéta Rogue. Il y eut un silence pendant lequel Harry contempla une grosse grenouille morte qui flottait dans un liquide violet.
« Vous savez pourquoi nous sommes ici, n'est-ce pas, Potter ?»
demanda Rogue d'une voix basse, menaçante.
« Vous savez pourquoi je sacrifie mes soirées à ce travail fastidieux ?»«
Oui, » dit Harry avec raideur.
« Rappelez-moi donc pourquoi nous sommes ici, Potter ?»«
Pour que j'apprenne l'occlumency, » répondit Harry, qui observait à présent une anguille d'un œil furieux.
« Exact, Potter !» « Eh bien que vous ne soyez pas très vif, »
Harry lui lança un regard de haine,
« j'aurais pensé qu'après plus de 2 mois de cours, vous auriez fait quelques progrès. Combien de fois encore avez-vous rêvé du Seigneur des Ténèbres ?»«
Une fois seulement, » mentit Harry.
« Peut-être, »
répliqua Rogue, ses yeux froids et noirs se plissant légèrement.
« Peut-être éprouvez-vous un certain plaisir à avoir ces visions et ces rêves, Potter. Peut-être vous donne-t-il le sentiment d'être quelqu'un de très original, d'important. »«
Non, ce n'est pas du tout ça, » répondit Harry, les dents serrées, les doigts crispés sur sa baguette magique.
« Tant mieux, Potter, »
déclara Rogue avec froideur.
« Car vous n'êtes ni original, ni important, et ce n'est pas à vous qu'il appartient de découvrir ce que le Seigneur des Ténèbres dit à ses mange-morts. »«
Non, ça c'est votre travail, n'est-ce pas ?» lui lança Harry. Il n'avait pas voulu dire cela. Les mots étaient sortis tout seuls, dans un mouvement d'humeur. Pendant un long moment, ils s'observèrent. Harry était convaincu qu'il était allé trop loin. Pourtant... il y eut une étrange expression de satisfaction sur le visage de Rogue lorsqu'il lui répondit
« Oui, Potter, » dit-il, des yeux étincelants, « c'est en effet mon travail. Et maintenant, si vous êtes prêts, nous allons recommencer. »
Il leva sa baguette.
«
Un, deux, trois, lèche les mains.
Une centaine de détraqueurs s'avançaient en direction de Harry sur les rives du lac. Il crispa son visage dans un effort de concentration. Il se rapprochait. Il voyait des trous noirs sous leur cagoule. Mais il voyait également Rogue debout devant lui, ses yeux fixés sur son visage marmonnant des paroles inaudibles. Et peu à peu, Rogue sembla plus distinct, tandis que les silhouettes des détraqueurs s'estompaient. Harry leva sa propre baguette. « Protego !» Rogue tituba. Sa baguette magique lui échappa des mains et soudain, la mémoire de Harry bouillonna de souvenirs qui n'étaient pas les siens. Un homme au nez crochu hurlait devant une femme recroquevillée pendant qu'un jeune garçon aux cheveux noirs pleurait dans un coin. Un adolescent à la chevelure graisseuse était assis tout seul dans une chambre, pointant sa baguette magique au plafond pour tuer des mouches en plein vol. Une fille riait en voyant un jeune homme efflanqué essayer de monter sur un balai qui ruait comme un cheval.
« Ça suffit !»
Harry eut l'impression qu'on lui avait donné un coup dans la poitrine. Il recula de plusieurs pas, chancelant, heurta une des étagères qui recouvraient les murs et entendit un bruit de verre brisé. Le teint très pâle, Rogue tremblait légèrement. Harry sentit que le dos de sa robe était humide. Un bocal s'était cassé sous le choc et l'horrible chose gluante qu'il contenait tournoyait sur elle-même, emportée par le tourbillon de la potion qui s'en échappait.
« Réparo !»
siffla Rogue et le bocal se reconstitua aussitôt.
« Eh bien, Potter, c'était un progrès incontestable !»
La respiration légèrement haletante, Rogue redressa la pancine dans laquelle il avait mis de côté certaines de ses pensées avant le début du cours et regarda à l'intérieur comme pour vérifier qu'elles étaient toujours là.
« Je ne me rappelle pas vous avoir dit d'utiliser le charme du bouclier, mais c'était efficace, sans aucun doute. »
Harry ne répondit pas. Dire quoi que ce soit pourrait être dangereux, il le sentait. Il était certain d'être entré dans des souvenirs de Rogue, d'avoir vu des scènes de son enfance. Harry éprouva un certain malaise à l'idée que le petit garçon qui pleurait devant ses parents, en train de se disputer, était à présent devant lui avec une telle répugnance dans le regard.
« Essayons à nouveau, d'accord ?» dit Rogue.
Harry éprouva un sentiment d'effroi. Rogue allait lui faire payer ce qui venait de se produire, il en était sûr. Ils reprirent leurs places respectives de part et d'autre du bureau, et Harry sentit qu'il lui serait beaucoup plus difficile cette fois de vider son esprit.
« Attention, à trois !» dit Rogue en levant à nouveau sa baguette. « Un, deux !»
Harry n'eut pas le temps de rassembler son énergie et d'essayer de faire le vide dans sa tête avant que Rogue s'écrie
« Les Inimas !»
Il se précipitait le long du couloir qui menait au département des mystères. Les murs nus et les torches défilaient de chaque côté. La porte noire et lisse grandissait devant lui. Il courait si vite qu'il n'allait pas tarder à la heurter de plein fouet. Il n'était plus qu'à 1 ou 2 mètres et voyait à nouveau le ray vertical de lumière bleue. La porte s'était ouverte toute grande. Il l'avait enfin franchi et se retrouvait dans une pièce circulaire, aux murs et au sol noir, éclairée par des chandelles aux flammes bleutées. Autour de lui, il y avait d'autres portes. Il devait absolument aller plus loin. Mais quelle porte choisir ?
Potter !
Harry ouvrit les yeux. Il était étendu sur le dos sans se souvenir d'être tombé. Il avait le souffle court comme s'il avait véritablement couru tout au long du couloir, comme s'il avait véritablement franchi la porte et découvert la pièce circulaire.
« Expliquez-vous !»
dit Rogue, debout, au-dessus de lui, l'air furieux.
« Je ne sais pas ce qui s'est passé, » répondit sincèrement Harry en se relevant.
Il avait une bosse derrière la tête, là où il avait heurté le sol, et se sentait fiévreux.
« Je n'avais encore jamais vu ça. Je vous le dis, j'ai rêvé de la porte, mais elle ne s'était jamais ouverte jusqu'à maintenant. »
« Vous ne faites pas assez d'efforts !»
Pour une raison qui lui échappait, Rogue était encore plus furieux que 2 minutes auparavant, lorsque Harry avait réussi à voir certains de ses souvenirs.
« Vous êtes paresseux et négligent, Potter ! Il ne faut pas s'étonner que le Seigneur des Ténèbres...
Pourriez-vous me dire quelque chose, monsieur ?»
l'interrompit Harry en se mettant à nouveau en colère.
« Pourquoi appelez-vous Voldemort, le Seigneur des Ténèbres ? Je n'ai entendu que les Mangemorts lui donner ce nom !»
Rogue ouvrit la bouche comme pour lancer un rugissement, et une femme poussa alors un hurlement quelque part dans le château. Rogue leva brusquement la tête et regarda le plafond.
« Qu'est-ce que c'est ?»
marmonna-t-il. Harry entendit un brouhaha étouffé qui devait venir du hall d'entrée. Rogue jeta un regard autour de lui, les sourcils froncés.
« Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel lorsque vous êtes descendu ici, Potter ?»
Harry fit non de la tête. Au-dessus d'eux, la femme hurla à nouveau. Rock s'avança à grands pas vers la porte, sa baguette toujours brandie, et disparut dans le couloir. Harry hésita un moment, puis sortit à sa suite. Les cris provenaient en effet du hall d'entrée. Ils augmentaient d'intensité à mesure que Harry montait les marches de pierre qui menaient des cachots au rez-de-chaussée. Lorsqu'il arriva en haut de l'escalier, une foule était rassemblée dans le hall. Des élèves étaient accourus de la grande salle où ils étaient en train de dîner pour venir voir ce qui se passait. D'autres se pressaient sur les marches de l'escalier de marbre. Harry se fraya un chemin parmi un groupe de grands serpentards et vit qu'un cercle s'était formé. Certains visages paraissaient choqués, d'autres effrayés. Le professeur McGonagall se trouvait de l'autre côté du cercle, face à Harry. Apparemment, ce qu'elle voyait lui soulevait le cœur. Le professeur Trelawney se tenait au milieu du hall, sa baguette magique dans une main, une bouteille de Xérès vide dans l'autre. Elle semblait en proie à une véritable crise de folie. Ses cheveux étaient dressés sur sa tête et ses lunettes de travers faisaient paraître un de ses yeux plus grand que l'autre. Ses innombrables châles et écharpes pendaient en désordre de ses épaules et donnaient l'impression qu'elle se déchirait de toutes parts. Deux grosses malles étaient posées sur le sol à ses pieds. L'une d'elles était à l'envers, comme si on l'avait jetée dans l'escalier. Le professeur Trelawney, le regard fixe, paraissait terrifié par quelque chose que Harry ne pouvait voir, mais qui devait se trouver au bas des marches de marbre.
« Non !» hurla-t-elle. « Non ! Ça n'est pas possible ! Ça ne se peut pas ! Je refuse de l'accepter !»«
Vous n'avez donc pas réalisé que cela vous pendait au nez ?»
dit avec un amusement cruel une voix aiguë de petite fille. En se déplaçant légèrement vers la droite, Harry comprit que la terrifiante vision du professeur Trelawney n'était autre que le professeur Ombrage.
« Bien que vous ne soyez même pas capable de prévoir le temps qu'il fera demain, vous auriez dû deviner que vos piteuses performances au cours de mes inspections et votre absence totale de progrès par la suite rendaient votre renvoi inévitable.
« Vous ne pouvez pas faire ça !»
s'écria le professeur Trelawney, des larmes ruisselant derrière ses énormes lunettes.
Vous ne pouvez pas me renvoyer, je suis ici depuis 16 ans. Poudlard est ma maison.
C'était votre maison,
rectifia le professeur Ombrage. Harry éprouva un sentiment de révolte en voyant la joie qui s'étalait sur son visage de crapaud, tandis qu'elle regardait le professeur Trelawney, secoué de sanglots incontrôlables, s'effondrer sur l'une de ses malles.
Depuis que le ministre de la magie a signé, il y a une heure, votre ordre de révocation, vous n'habitez plus ici. Veuillez avoir l'amabilité de vous retirer de ce hall. Vous nous embarrassez.
Elle resta là à observer avec une jubilation féroce le professeur Trelawney au comble du malheur, qui tremblait et gémissait en se balançant d'avant en arrière sur sa malle. Harry entendit à sa gauche un sanglot étouffé. Lavande et Parvati pleuraient silencieusement, serrées l'une contre l'autre. Puis, des bruits de pas résonnèrent dans le hall. Se détachant de la foule, le professeur McGonagall marcha droit sur le professeur Trelawney et lui tapota le dos d'un geste ferme en sortant un mouchoir d'une poche de sa robe.
« Allons, allons, Sibyl, calmez-vous. Tenez-moi chez vous, ce n'est pas si grave. Vous ne serez pas obligé de quitter Poudlard.
Ah, vraiment ?» « Professeur McGonagall !»
dit Ombrage d'un ton assassin en s'avançant de quelques pas.
« Et qu'est-ce qui vous donne le droit de dire cela, hein ?»«
Moi !» répondit une voix grave.
Les portes de chêne s'étaient soudain ouvertes et les élèves qui se trouvaient devant s'écartèrent précipitamment pour laisser passer Dumbledore. Qu'était-il allé faire dans le parc ? Harry n'en avait aucune idée. Mais il y avait quelque chose d'impressionnant à le voir ainsi apparaître dans l'encadrement de la porte, sa silhouette se découpant dans la nuit étrangement brumeuse. Il laissa les portes grandes ouvertes derrière lui et s'avança à travers le cercle des spectateurs en direction du professeur Trelawney, frissonnante et ruisselante de larmes, toujours effondrée sur sa malle, le professeur McGonagall à son côté.
« Vous, professeur Dumbledore ?»
dit Ombrage avec un petit rire singulièrement déplaisant.
« J'ai bien peur que vous n'ayez pas compris la situation. J'ai ici... »
Elle tira de sa robe un rouleau de parchemin.
« Un ordre de révocation. communication signée par moi et par le ministre de la Magie. Conformément au décret d'éducation numéro 23, la grande inquisitrice de Poudlard a le pouvoir d'inspecter, de mettre à l'épreuve et de renvoyer tout enseignant qu'elle, c'est-à-dire que je, excusez-moi, juge incapable de répondre aux critères exigés par le ministère de la Magie. Or, j'ai estimé que le professeur Trelawney n'était pas au niveau requis. Et c'est pourquoi j'ai mis fin à ses fonctions.
À la grande surprise de Harry, Dumbledore continua de sourire. Il baissa les yeux vers le professeur Trelawney qui sanglotait toujours sur sa malle et déclara
« Vous avez tout à fait raison, bien sûr, professeur Ombrage. Comme grande inquisitrice, vous avez parfaitement le droit de mettre fin aux fonctions de mes enseignants. En revanche, vous n'avez aucune autorité pour les expulser du château. Je crains bien,
poursuivit-il en s'inclinant courtoisement,
que ce pouvoir-là incombe encore au directeur de l'établissement. Or, je souhaite que le professeur Trelawney continue d'habiter à Poudlard.
Le professeur Trelawney laissa alors échapper un petit rire frénétique, ponctué d'un hoquet qu'elle n'arriva pas à étouffer.
Non, je vais partir, Dumbledore. Je quitterai Poudlard pour chercher fortune ailleurs.
Non,
répliqua Dumbledore d'un ton abrupt.
Je souhaite que vous restiez, Sibyl.
Il se tourna vers le professeur McGonagall.
Puis-je vous demander de raccompagner Sibyl chez elle, professeur?
Bien entendu, répondit McGonagall. Levez-vous, Sibyl. Le professeur Shurav surgit de la foule et se précipita pour prendre l'autre bras du professeur Trelawney. Toutes deux l'entraînèrent vers l'escalier de marbre en passant devant Ombrage. Le professeur Flitwick accourut derrière elle.
« L'Accommateur Barda !»
ordonna-t-il de sa petite voix flûtée. Aussitôt, les deux mâles s'élevèrent dans les airs et se dirigèrent vers l'escalier, le professeur Flitwick fermant la marche. Le professeur Ombrage resta parfaitement immobile, les yeux fixés sur Dumbledore, toujours souriant.
« Et qu'allez-vous faire ?»
demanda-t-elle dans un murmure qui résonna tout autour du hall.
« Lorsque j'aurai nommé un nouveau professeur de divination qui aura besoin de cet appartement ?»«
Oh, ça ne posera aucun problème, » répondit Dumbledore d'un ton aimable. « Figurez-vous que j'ai déjà trouvé un nouveau professeur de divination et il préfère loger au rez-de-chaussée. »«
Vous avez trouvé ?»
s'exclama Ombrage d'une voix perçante.
« Vous avez trouvé ! Puis-je vous rappeler, Dumbledore, qu'en vertu du décret d'éducation numéro 22 ?»«
Le ministère est chargé de choisir lui-même la personne qualifiée dans le cas et uniquement dans ce cas où l'actuel directeur ne serait pas en mesure de trouver lui-même un candidat, »
répondit Dumbledore.
« Or, je suis heureux de vous annoncer qu'en la circonstance, j'ai réussi. Puis-je vous présenter ?»
Il se tourna vers les portes ouvertes à travers lesquelles filtrait à présent la brume nocturne. Harry entendit un bruit de sabots. Il y eut un murmure stupéfait dans tout le hall, et les élèves qui se tenaient près des portes reculèrent à nouveau, certains d'entre eux trébuchant dans leur hâte de laisser le passage au nouveau venu. À travers la brume se dessinèrent un visage et une silhouette que Harry avait déjà vue lors d'une nuit sombre où il avait dû affronter les dangers de la forêt interdite. Des cheveux d'un blond presque blanc, des yeux d'un bleu extraordinaire, la tête et le torse d'un homme, le corps d'un cheval à la robe claire et cuivrée.
« Voici, Firenze !»
dit Dumbledore d'un ton joyeux à une Ombrage qui semblait frappée par la foudre.
« Je pense que vous le trouverez qualifié pour ce poste. »